La fête de la radio. Pour célébrer les 40 ans de la FM et les 100 ans de la radio.
Un débat présenté et animé par les lycéens de l'Académie de Toulouse avec l'aide de l'École de journalisme de Toulouse, l'École supérieure de journalisme de Montpellier et des écoles Supformadia et Studio M avec le soutien du CLEMI et du CSA.
On va parler du financement des radios régionales avec quatre intervenants. Je vous invite à vous installer ici, à prendre un micro chacune et chacun. Pareil, on va essayer de consacrer 20 minutes pour le débat entre lycéens, étudiants et les intervenants, et 20 minutes avec vous, le public. Et je laisse tout de suite la parole aux lycéennes ici présentes.
Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Emma Fraresso, je suis en classe de terminale dans un lycée à l'Île-Jourdain, dans le Gers.
Bonjour, donc je m'appelle Natacha Wolf, je suis au lycée Pierre Mendès France à Vic-en-Bigorre et je suis également élue au CAVL, qui est le conseil académique de vie lycéenne.
Donc nous allons commencer avec une première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et indiquer comment votre structure participe au financement des radios locales, en quelques mots?
Oui, alors bonjour à tous, donc je me présente, je suis Laura de Bézy, je travaille à la DGNI. Des médias privés à ce titre.
Et on a un petit,
Je suis donc chargée du secteur du suivi du secteur des radios privées, de l'ensemble des radios privées, et je suis également secrétaire générale du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, voilà, le fonds qui soutient les radios associatives.
Bonjour, donc Mélodie Chibat, je travaille à la région Occitanie, à la direction de la culture et du patrimoine, et je suis en charge notamment du secteur des radios associatives non commerciales. Et voilà, donc je peux vous présenter un petit peu l'action de la région, hein, qui s'articule autour de plusieurs axes dans le cadre du soutien aux radios associatives non commerciales, donc, qui s'articule autour de trois actions principales. Une première qui vise plutôt à préserver la diversité et la qualité de l'offre radiophonique sur le territoire régional à travers des aides notamment complémentaires au fonds de soutien à l'expression radiophonique. Des aides qui visent à soutenir les réseaux professionnels que sont l'ARA et le collectif des radios libres d'Occitanie à travers des actions de structuration, de professionnalisation du réseau des radios, et enfin une dernière action autour de l'accompagnement des radios associatives sur la création radiophonique et sa diffusion.
Bonjour, Laurent Porcher, je dirige Régie Radio Région, qui est donc une régie publicitaire qui a pour vocation de commercialiser la publicité sur les fréquences des radios B, donc des radios locales privées, et puis des radios musicales privées, donc des radios de catégorie C, pour ceux qui connaissent les différentes catégories. On est présent sur toute la France. Voilà notre domaine d'intervention.
Bonjour, Marc Latané, je suis conseiller cinéma de la DRAC Occitanie, conseiller cinéma de cette maison. La DRAC Occitanie, la direction régionale du ministère de la Culture. Donc la DRAC ne finance pas directement les radios, puisque pour le ministère, donc, c'est le FSER et la DGMIC. Mais en revanche, on peut financer quelques projets des radios lorsque celles-ci répondent à des appels à projets que nous lançons régulièrement, des appels à projets culture santé, culture justice, culture agriculture et les lycées agricoles. Ce sont donc des actions artistiques et culturelles dans les établissements de santé, de d'enseignement agricole ou d'enseignement éducation nationale.
C'est bon là ? Non.
Si je vais le jeter par une fenêtre, je reviens.
Oui, on entend mieux. Donc, merci pour votre présentation. Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être être bateau, mais qui est quand même super importante actuellement. Donc, de votre point de vue, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur l'économie des radios ?
Alors, effectivement, on s'en est tous bien rendu compte. L'ensemble des médias, et en particulier et notamment les radios, ont été impactés. Ils ont continué à diffuser dans des conditions très compliquées, très difficiles. Et ça a été absolument salvateur pour les auditeurs, puisque c'était un accompagnement, ça a créé un lien social, un lien en fait indéniable. Donc elles ont continué dans des conditions compliquées à diffuser. Et l'impact naturellement de cette crise a été... Elles ont toutes été touchées, mais l'impact était différent selon que le modèle économique de ces acteurs dépendait ou non de recettes publicitaires, bien sûr. C'est la raison alors, pour laquelle, parce qu'effectivement on a constaté que les médias privés avaient subi une chute, la diminution drastique de leurs recettes publicitaires, et notamment au niveau local, les résultats du bump l'ont rappelé récemment. C'est 28,5% je crois, de recettes en moins au niveau local en 2020 comparé à l'année 2019. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu des dispositifs transversaux qui ont été mis en œuvre par le gouvernement et des dispositifs sectoriels ciblant les médias audiovisuels qui ont été mis en place par le ministère de la Culture. Donc deux dispositifs sectoriels, le crédit d'impôt à la création qui concerne effectivement les médias, les radios, les télévisions et les services à la demande, qui devrait être appliqué très très prochainement suite à des discussions avec la Commission européenne, et également un dispositif d'aide à la diffusion, qui est donc réservé aux télévisions locales et aux radios nationales et locales. Donc ce sont les deux dispositifs exceptionnels d'urgence qui ont été mis en place, qui ont été pensés et mis en place pour tenter d'accompagner ces acteurs qui ont dû faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Parallèlement à ça, bien sûr, il y a les acteurs associatifs, les radios associatives qui ont elles aussi ont été bien sûr lourdement impactées, frappées par la crise sanitaire, même si par définition, évidemment, elles dépendent de moins de la publicité, puisque elles sont, l'article 80 de la loi leur impose de recevoir moins de 20% de recettes publicitaires rapportées à leur chiffre d'affaires total. Donc évidemment, elles ont été moins impactées et surtout, elles ont un soutien, un financement public qui représente en moyenne, au total, 60% de leurs ressources, en moyenne. Le FSER, c'est 40% et le reste, ce sont les collectivités, les DRAC. Et par bonheur, on a pu constater que ce soutien avait été maintenu en ouvrant les dossiers du fonds de soutien de cette année. Pour la plupart, ces soutiens publics a été maintenu, c'est une très bonne chose. Il n'empêche que les radios n'ont pas pu mener les actions habituelles, évidemment. L'an dernier, les ateliers ont été annulés. Il y a eu une baisse de recettes de MIG, on le sait très bien. Il y a eu annulation d'ateliers, fermeture de classes. Donc il y a eu une diminution de leurs recettes également. Donc c'est la raison pour laquelle le ministère est intervenu très rapidement, dès le mois de mars, pour l'année 2020, puisqu'il y a eu une adaptation des procédures du FSER. On a retardé la date de dépôt du dossier de 2 mois, ce qui a beaucoup aidé les radios, qui avaient des difficultés à récupérer les documents comptables notamment. On a versé en urgence au mois de juillet des avances de subvention d'exploitation. La subvention d'exploitation, c'est vraiment le plus gros de l'accompagnement du FSER. Ça représente presque 80% de l'enveloppe globale du dispositif. Donc on a versé des avances en juillet à toutes les radios qui avaient déposé une demande. On a entendu que ça avait vraiment permis à ces structures de maintenir leur activité. Ça avait quasiment sauvé leur trésorerie. On a versé également des avances de subventions sélectives en fin d'année. Donc ça, c'était pour l'année 2020. Et pour cette année, on a obtenu une augmentation de la dotation du dispositif, du FSER. C'est un niveau historique, puisqu'on a obtenu une augmentation de 1 250 000 euros. Donc on a atteint une enveloppe à 32 millions d'euros. Ça a été la première chose. Et puis ensuite, on a adapté le dispositif du FSER pour ce qui concerne la subvention sélective, en réservant aux radios la possibilité d'opter entre une année blanche ou un réexamen de leur dossier. Donc ça, c'est une prise en compte de la difficulté des radios associatives à décrire ou à justifier l'annulation de certaines actions en 2020, puisque on sait bien qu'il y aura un impact réel sur ces actions-là, les actions de l'année dernière, pour la subvention de cette année. Donc on a adapté le dispositif. Et les radios associatives peuvent également bénéficier d'un dispositif qui n'est pas géré par le ministère de la Culture, mais le fonds le fonds OSS, qui est doté quand même de 30 millions d'euros, elles peuvent bénéficier de ce dispositif également. Donc voilà, donc effectivement, l'ensemble des médias ont été impactés par la crise et plusieurs actions ont été menées par le ministère de la Culture pour tenter de les accompagner.
Bien, alors ça concerne le dispositif d'aide, mais concernant l'impact de la crise sanitaire sur la pub, il doit y en avoir un certainement, Monsieur Porcher.
Oui, alors tout à fait. Alors nous, c'est très simple. On a, comme vous le disiez, on a eu une baisse de nos chiffres d'affaires de l'ordre de 25%. Donc ça représente 6 millions d'euros pour la structure que je représente sur l'année 2020. Sachant qu'il y a eu deux impacts. Il y a eu un impact beaucoup plus fort au niveau local et beaucoup moins fort parce que les radios locales privées fonctionnent avec de la publicité locale et de la publicité nationale. L'impact a été beaucoup plus fort localement, hein, parce que d'abord les commerces étaient fermés, alors que quand vous faites de la communication nationale, les marques avaient toujours la possibilité de communiquer pour leurs services de vente en ligne et autres. Et puis elles ont un petit peu repris le pouvoir par rapport au local, où une fois encore les magasins étaient fermés. Donc ça a été un impact très très fort. Parce que heureusement, il y a eu aussi, alors pas des aides directes, mais il y a eu des campagnes mises en place par les pouvoirs publics pour informer les usagers, enfin le grand public, sur la crise sanitaire. Et on s'est rendu compte que certains secteurs, notamment le secteur institutionnel, on n'avait pas baissé. Donc là, la commande publique nous a un peu aidé. On a quand même une perte de l'ordre de 25%. Ce qui est assez intéressant à constater, c'est que le premier confinement a été très très dur, parce que là on était vraiment à l'arrêt. Il y a vraiment eu un effet de sidération pour les commerçants, pour le grand public et pour nos entreprises. Et puis au fil des confinements, le deuxième, le troisième, on se rend compte que tout le monde s'adapte, les commerçants s'adaptent, nous-mêmes on s'adapte. Donc on continue à perdre de l'argent, mais heureusement moins.
Et ensuite, vous avez peut-être d'autres questions à poser. Il nous reste 10 minutes avant la question des lycéens et des étudiants.
Alors ensuite, la question suivante concerne comment financer les nouvelles formes de radio, le podcast, le web radio, enfin la web radio, etc.
Bon, je vais peut-être prendre la parole pour présenter l'exemple de la... On entend, oui. De la région Occitanie, donc qui mène depuis 2017 un partenariat avec l'Assemblée régionale des radios associatives et le collectif des radios libres d'Occitanie pour donc accompagner les radios sur le champ de la création sonore et radiophonique. Donc concrètement, ça se matérialise par des appels à projets annuels qui permettent aux radios qui sont intéressées par la création radiophonique de répondre et de réaliser des œuvres sonores sur une thématique culturelle ou patrimoniale régionale. Ça peut être des formats courts de 5 minutes, des formats longs, et on essaie d'explorer tous les genres, que ce soit le documentaire, la fiction, le docu-fiction. Également, on a expérimenté aussi des formes un peu plus hybrides entre le son et l'image pour diffuser sur les réseaux sociaux et Internet. Donc voilà, c'est des initiatives qui permettent de diversifier la programmation des radios et de capter de nouveaux publics. D'ailleurs, vous pouvez écouter une partie de ces créations sur les stands qui sont... les stands du CRLO et de l'ARA qui sont juste à côté. Voilà.
Je peux apporter juste un éclairage. Sur les appels à projets que nous lancerons, en tout cas, les web radios répondent parfois à ces appels à projets, notamment sur l'appel à projet EMI, éducation aux médias et à l'information. Alors, on ne les aide pas au fonctionnement, mais on peut les aider sur des projets précis.
Et pour ce qui concerne la DGMIC, d'abord les web radios, alors c'est vrai qu'on les connaît certainement moins bien que les radios herdiennes. Elles ne sont pas soutenues au titre du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale. On les connaît moins bien simplement parce que, contrairement aux radios herdiennes, elles n'ont pas de convention ou très peu, à compter, enfin, sous certaines conditions de seuil, etc. Donc on les connaît mal. Elles ont malgré tout un rôle très important, et ça on s'en rend absolument compte au niveau local, notamment au niveau du suivi du secteur culturel, etc. Donc elles sont bien présentes et on le sait. Elles sont soutenues parfois au titre du fonds de médias d'information sociale de proximité sous certaines conditions, donc on commence à les connaître un peu mieux. Et surtout, on a l'impression que les web radios ont tendance à se structurer actuellement. Donc ça facilitera certainement le dialogue avec les institutions, avec le CSA, avec le ministère de la Culture. Donc ça, c'est un point très positif. Et pour ce qui concerne la création sonore, donc les podcasts, nous avons suivi très attentivement et lu très attentivement le rapport remis par les inspecteurs, les IGAC du ministère, un rapport vraiment foisonnant. Et nous savons que les podcasts sont riches et sont vraiment représentent presque, je dirais, c'est un renouvellement du média. On sait que les radios participent très activement à ce foisonnement, à ce secteur qui émerge. Donc l'accompagnement, c'est pas qu'un accompagnement financier. On sait qu'il y a des questions d'encadrement, avec des questions de reprise autorisée ou pas du contenu de ces podcasts. Donc le ministère suit tout ça avec beaucoup d'attention.
D'accord, et bien merci beaucoup pour vos réponses. Donc pour la dernière question avant d'attaquer sur la question des lycéens et des étudiants, donc outre les subventions et la publicité, quels sont les autres modes de financement des radios locales? Est-ce que vous avez bien compris ma question ou pas?
Outre les subventions et la pub, quelles sont les ressources des radios associatives, c'est ça? Radio locale ou indépendante ou radio associative?
Radio locale.
Bon, alors moi je vais peut-être parler pour des radios associatives. Eh bien, ces radios effectivement mènent des actions, font des ateliers par exemple avec les scolaires, d'éducation artistique et culturelle, d'éducation aux médias, donc elles ont des ressources à ce titre-là. Elles diffusent également des messages d'intérêt généraux, ça on l'a dit, on en a parlé. Il y a aussi...
beaucoup de partenariats avec les festivals, notamment.
Exactement.
Et les acteurs culturels, notamment du territoire, ce sont aussi d'importantes sources de financement pour les radios associatives, que de participer à la vie culturelle d'un territoire et de nouer des partenariats avec des partenaires culturels ou autres.
Oui, elles font des formations à l'attention des professionnels qui leur apportent des ressources et également. Elles vendent de leur production, elles ont des dons, un peu de mécénat. Mais c'est vrai que si on regarde la moyenne, la ressource des radios associatives, elle fonctionne essentiellement sur c'est 60% de subventions publiques au total. Donc. Et peu de publicité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisque par définition, elles ne peuvent pas en faire plus que 20%. Donc, voilà.
Alors pour les radios locales privées, les principales des recettes viennent de la publicité. Hein. Sans publicité, il faudra se poser la question de l'avenir de ces radios. Après, il y a quelques expériences assez intéressantes, notamment avec des web radios. Il y a une web radio dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Radio Meux, qui a eu un décollage et une augmentation d'audience assez importante. Ils avaient un business model qui était principalement basé sur le fait de vendre des animations, en fait, hein, parce que les DJ animaient des festivals. Bon, malheureusement, ils ont connu une année 2020 assez difficile, puisque n'ayant plus de festivals, donc ils ont dû se tourner vers la publicité. Donc, comme quoi, on en revient toujours un peu à ça. Après, je sais qu'il y a aussi un groupe qui mène une expérience de faire une radio, enfin, d'offrir un bouquet de radio, moyennant un financement par les auditeurs, mais là on en est au stade vraiment expérimental et je pense pas que ça suffira pour toutes les radios et que ça marchera pour toutes les radios.
Merci beaucoup pour vos réponses. On a maintenant la question des lycéens. On a un lycéen qui a une question à vous poser. Je lui donne le micro tout de suite.
Merci. Alors Eric, je suis lycéen, donc membre du conseil académique de la ville lycéenne, et la question que nous avons à vous poser, c'est pourquoi soutenir les radios locales par des subventions publiques? Merci bien.
Alors, pourquoi soutenir les radios associatives par le biais du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale? Ben pour leur permettre d'exercer leur mission de communication sociale de proximité, pour leur permettre de mener ces actions qui sont absolument essentielles pour le lien social, des actions culturelles et éducatives ou liées à l'intégration, à la lutte contre les discriminations, pour des actions liées au développement local. Elles sont présentes sur l'ensemble du territoire et ça permet, en soutenant ces acteurs, ça permet d'obtenir un paysage radiophonique extrêmement riche et diversifié, donc ça participe au pluralisme, c'est absolument essentiel. Le FSER, justement, a été réformé en 2015 et ces fameuses actions liées à la communication sociale de proximité menées par les radios sont désormais mieux valorisées. Et le FSER accompagne depuis 1982 près de 700 radios associatives. Donc, je pense que c'est la raison principale.
Oui, bah, pour compléter, bon, ça a été dit, mais effectivement, les radios associatives non commerciales mènent une mission essentielle au service du public et de l'intérêt général, des actions qui favorisent, on l'a dit, le lien social, l'expression de la citoyenneté, le développement culturel, économique des territoires et également l'expression de nos diversités culturelles. C'est aussi des véritables lieux de création artistique et de diffusion donc, qu'il faut préserver. Et la subvention publique fait partie des leviers pour ce faire. Voilà.
Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Maintenant, on passe à la question des étudiants et après, on passe à l'échange avec la salle.
Alors, bonjour, Soltan Ouazani, étudiant au Master Information Communication de l'Université Toulouse 1 Capitole et chroniqueur bénévole sur Booster FM 89.1. Ma question est la suivante. Elle se décline en deux parties. Pensez-vous que les opérateurs adaptent leur programmation aux critères du FSER ou à ceux des annonceurs? Et dans un second temps, pensez-vous que la publicité exerce une contrainte quelconque sur les radios et leur programmation? Voilà.
Alors, pour les radios privées, je dirais que la publicité exerce une contrainte, mais c'est une contrainte qui doit être maintenue. C'est-à-dire que si demain une radio diffuse trop de publicité ou va trop dans le sens de ses annonceurs, le danger pour elle, c'est de perdre tout simplement son audience. Et à partir du moment où elle perd de l'audience, elle aura moins de recettes publicitaires. Donc c'est un savant mélange, ou en tous les cas un savant équilibre qu'il faut essayer de trouver. Et donc oui, il y a contrainte, bien sûr, parce que les annonceurs ont la possibilité d'exercer un pouvoir économique, mais en même temps, les radios font tout pour le contrebalancer. Et quand on est régie publicitaire et qu'on est au milieu, je peux vous dire qu'on sent bien que de temps en temps, il faut trouver un équilibre. Ouais. On ne peut pas vendre tout ce qu'on veut sur une radio. Et là-dessus, les radios veillent très bien à préserver cet équilibre et leurs intérêts.
Merci pour vos réponses. Désormais, on va passer aux questions de la salle.
Alors, je ne voudrais pas poser de questions, ou j'en poserai une juste après peut-être à Madame de Bézy, mais je voulais répondre aux lycéens sur le pourquoi on finance les radios associatives. Il faut tout d'abord savoir que le bien hertzien est un bien public, comme l'air que l'on respire, comme l'eau que vous buvez, en France en tout cas. Ce bien public, il est accessible gratuitement à tous les médias, y compris ceux qui font de l'argent, normalement en vendant de la publicité. TF1, Énergie, Virgin, Mes Amis de Totem, ceux de 100% et ainsi de suite, ont accès à ce bien gratuitement. En contrepartie, à une époque et avant la réforme de 2009, et comme l'a prévu le législateur, d'autres radios doivent accéder à ce bien pour permettre aux citoyens d'évoluer sur ce bien. Ce sont les radios associatives. Et en fait, le fonds de soutien à l'expression radiophonique à l'origine et jusqu'en 2009 était ce qu'on appelle un fonds de péréquation. TF1, les radios commerciales payaient et continuent à payer aujourd'hui une taxe qui alimentait ce fonds et qui permettait aux radios qui n'ont pas le droit de faire de la publicité au-delà de 20% de leur chiffre d'affaires d'accéder à ce bien. On est donc en théorie dans un système vertueux entre des gens qui font sur un bien public à titre gracieux dans cette accessibilité, eh bien, de l'argent, comme tout commerçant, et d'autres qui s'interdisent de faire cette même publicité, mais qui veulent accéder à ce bien pour le bien des citoyens. En 2009, pour des tas de raisons techniques, le fonds de soutien a été ce qu'on appelle budgétisé, mais la taxe existe toujours et la philosophie est toujours la même. À celle-ci a été ajoutée en 2000 l'émission de communication sociale de proximité, et donc à cette aide automatique pour exploiter le bien, une aide plus sélective pour répondre à des missions. Voilà. Madame de Bézy, je vous ai entendu, et c'est au ministère de la Culture que je pose cette question et non pas à vous. Vous avez, le ministère de la Culture a mis en place un fonds d'aide aux radios commerciales parce qu'elles ont eu une baisse de chiffre d'affaires. Ce fonds est supérieur, si on regarde en année pleine, largement supérieur au fonds de soutien à l'exposition anophonique, et les radios associatives ont été interdites sur ce fonds. Je voulais vous dire que, un, aucune radio associative ne comprend pourquoi elles ont été interdites à ce fonds, que le fait de les interdire à ce fonds, et vos propos d'ailleurs, me confortent dans la réflexion que je vais vous faire, ça conteste le fait que nos radios sont des acteurs économiques. Nous ne sommes pas des acteurs commerçants, mais nous sommes bien des acteurs économiques. Vous l'avez dit vous-même, plus de festivals, plus de partenariats, plus d'écoles ouvertes, plus de, d'ateliers avec les scolaires, plus de manifestations ou d'actions territoriales, plus de messages d'intérêt collectif. Vous parlez là, comme vous le disiez vous-même, en moyenne de 40% des financements pour une structure quelle qu'elle soit. Et compte tenu de nos budgets, c'est énorme. Nous devons pouvoir accéder à ce fonds d'aide qui n'est là que pour compenser une perte d'activité qui, pour nous, comme pour les autres, a été plus que réel. Nous ne comprenons pas, et si le ministère avait une véritable explication de cette inéquité de traitement, je serais heureux d'avoir une réponse. Merci.
On a encore un petit peu de temps pour...
Vous attendez une réponse ? J'en ai plusieurs, oui, j'ai plusieurs réponses à apporter, effectivement. Au moment de la crise et du premier confinement, une réflexion pour l'ensemble des médias a été menée par le ministère. Il n'y avait pas que les radios associatives, on a vraiment constaté que l'ensemble des médias avait été touchés. Donc il a été effectivement décidé de mettre en place en urgence un dispositif de soutien d'aide à la diffusion pour compenser les pertes de recettes publicitaires de certains médias, donc effectivement les télévisions locales et les radios nationales et locales. Pour ce qui concerne les radios associatives, alors je tiens à préciser que les radios associatives qui n'ont pas bénéficié du FSER au titre de l'année 2020 sont éligibles au décret, au dispositif d'aide à la diffusion, c'est une petite précision, donc il y a 80 radios potentiellement éligible à ce dispositif que nous sommes en train d'instruire au sein de mon bureau actuellement. Pour ces radios-là, d'autres choix ont été faits par le ministère, je l'ai déjà dit, une augmentation pérenne du FSER, parce que je crois utile de rappeler que le fonds d'aide à la diffusion est un dispositif exceptionnel d'urgence, donc c'est du one-shot. Donc une augmentation de la dotation du FSER, 1 250 000 euros, ce n'est pas rien. D'autres dispositifs, un accompagnement, donc une adaptation du dispositif pour 2021. Et énormément de radios cette année ont opté pour une année blanche pour leurs subventions sélectives. Ce n'est pas rien non plus, c'est un vrai accompagnement. Des aides versées en urgence au courant de l'été aux radios. Donc effectivement, les radios associatives ne sont pas celles qui ont reçu le FSER en 2020, ne sont pas éligibles au dispositif d'urgence d'aide à la diffusion, mais elles ont un accompagnement très important de l'État et en particulier du ministère de la Culture.
Merci pour votre réponse. On va essayer de prendre encore trois questions. Et bien, monsieur qui avait demandé le micro, je vais lui donner. Je vous le passe juste après.
Oui, bonjour, merci. Ce n'est pas vraiment une question encore, c'est une réponse un peu plus locale sur pourquoi on finance les radios associatives locales. Les radios associatives locales ont une mission de service public. Qui va s'intéresser localement dans un rayon de 30 km, 40 km du commerçant, de la pièce de théâtre qui va se lancer, du jeune groupe qui va démarrer, d'un écrivain qui sort un bouquin? C'est pas les radios commerciales qui vont s'en occuper. C'est pas les télévisions qui vont s'en occuper. Or, ça, c'est du service public. Ça, c'est pour développer à la fois, comme on l'a dit tout à l'heure, la culture locale qui va après... À partir de là, ce jeune groupe va monter à une échelle supérieure, à une radio musicale commerciale, après sur une plateforme, etc., etc. Mais c'est parce que justement on remplit cette mission de service auprès du public et de tous les publics, quels qu'ils soient, qu'ils soient jeunes, vieux, handicapés, pas handicapés, qu'on est financé par le service public justement.
D'autres réactions peut-être dans le public, parmi nos intervenants, monsieur, je crois que vous êtes.
Oui, juste pour revenir par rapport à l'économie des radios, ça a été très bien dit par Madame de Bézy, et je vais parler plus particulièrement des radios associatives, où l'économie, elle est faite du fonds de soutien, certes, mais aussi d'autres activités qui n'ont pas pu être menées l'année dernière, mais aussi une bonne partie de cette année, puisque nous étions en période de confinement. Malheureusement, et comme pour le CSA, lorsqu'il y a des appels aux candidatures, il y a des études d'impact économique qui sont faites, et ces études ne prennent en compte que la publicité, le marché publicitaire. L'économie des radios de communication sociale de proximité, elle est multiple. Il y a le fonds de soutien, il y a une petite partie de publicité, mais elle existe aussi. Il y a les MIC-MIG, il y a toutes les animations, toutes les manifestations aussi sur lesquelles nous pouvons être partenaires ou organisateurs de ces manifestations. Donc l'économie des radios associatives a réellement été impactée. Concernant l'augmentation du fonds de soutien, elle est là aussi pour compenser l'arrivée de nouveaux services radiophoniques, peut-être trop rares d'ailleurs en DAB+, et a été mise en place une aide, un fonds d'urgence ESS, économie sociale et solidaire, mais qui ne peut satisfaire les radios associatives. Et d'ailleurs, vous le savez, ça a même étonné la ministre de la Culture, puisque Mme Roselyne Bachelot, entendue par les parlementaires, par l'Assemblée nationale, s'est émue que sur 150 dossiers qui avaient été déposés par les radios associatives sur ce fonds d'urgence ESS, il n'y en a eu que 11 qui ont été acceptés, c'est du moins un peu plus. C'est assez faible par rapport à toutes les pertes que les radios associatives ont connues l'année dernière et qu'elles connaîtront aussi cette année.
Oui, alors si je peux juste intervenir sur la question du fonds ESS, qui encore une fois n'est pas du tout un dispositif qui est géré par le ministère de la Culture, mais en tout cas, lorsque ce fonds a été créé, il y a vraiment eu des discussions étroites avec la DG du Trésor, pour que les radios associatives qui sont des acteurs de l'ESS ne soient surtout pas oubliées du dispositif, c'est quand même 30 millions d'euros. Les chiffres les plus récents que nous avons réussi à obtenir, c'est une vingtaine de dossiers qui ont été retenus, qui ont reçu une aide au titre du fonds ESS. Et d'après ce que me disait mon interlocuteur au Trésor, l'instruction se poursuit, en fait, jusqu'à épuisement de l'enveloppe, donc il n'y a pas de date butoir. Alors certes, c'est peut-être un peu long, mais j'espère vraiment que les radios associatives seront plus nombreuses que 20, que l'aboutissement sera positif. Mais en tout cas, c'est quand même un accompagnement qui existe. Et encore une fois, il n'est pas prévu par le ministère. Enfin.
Est-ce qu'on a un dernier retour dans la salle, une question, une remarque, je ne sais pas, un gourou, une idée en plus à donner? Personne? Bon, bah écoutez, merci à vous, chers intervenants, d'être venus nous parler de votre domaine et de votre sujet du financement des radios locales. On se retrouve dans une petite vingtaine de minutes sur un nouveau sujet. On va parler des podcasts web radio, radio filmée. Donc tous les nouveaux modes d'écoute de la radio. On se retrouve d'ici une petite vingtaine de minutes. On va prendre une petite pause d'ici là. À tout à l'heure, merci.
La fête de la radio. Pour célébrer les 40 ans de la FM et les 100 ans de la radio.
Un débat présenté et animé par les lycéens de l'Académie de Toulouse avec l'aide de l'École de journalisme de Toulouse, l'École supérieure de journalisme de Montpellier et des écoles Sudformadia et Studio M avec le soutien du CLEMI et du CSA.